CPU, carré et petit utile.
Dans cette release de CPU, de l'entropie. Aucune raison. Du bazar. Au final, n'importe quoi. L'équipe aujourd'hui enflammée d'Ascritch, Solarus excusé pour cause de maladie, c'est vraiment n'importe quoi, ses excuses à la con, notre invité Laurent Chemla, Justified and Ancient Admin 6. Et j'espère que tout le monde a mis son portable sur silencieux, j'apprécierais beaucoup parce qu'après, sinon ça va être le bazar. Ok, allez, c'est parti.
CPU, carré et petit utile.
Bonjour Enflammé.
Bonjour Dascritch.
Bonjour Laurent Chemla.
Salut.
Alors cette fois-ci, normalement avec moins d'interruptions techniques.
Bonjour.
On aura des choses à dire sur le FAI, mais ce n'est pas le sujet. Et bonjour à toi, enfant du futur immédiat. La scène se passe sur une plage, lors d'une matinée d'automne, à marée montante. Posé sur la grève et baigné par les vagues, un grand bureau porte un imposant micro de radio des années 30, couronné par le sigle BBC. John Cleese est habillé en costume queue de pie. Il regarde la caméra et annonce d'un flegme tout britannique émanant quelque chose de totalement différent.
Dans le film de Steven Spielberg, E.T., pourquoi l'extraterrestre est marron? Aucune raison. Dans Love Story, pourquoi est-ce que les deux héros tombent follement amoureux l'un de l'autre? Aucune raison. Dans le film d'Oliver Stone, JFK, pourquoi le président est-il tout à coup assassiné par un inconnu? Aucune raison. Dans l'excellent Massacre à la tronçonneuse de Toby Hopper, pourquoi est-ce qu'on ne voit jamais les personnages faire un tour aux toilettes ou se laver les mains, comme on a l'habitude de le faire dans la vraie vie? Définitivement aucune raison. Pire encore, dans Le pianiste de Polanski, pourquoi ce gars doit se cacher et vivre comme un chien, alors qu'il joue du piano super bien? Je le redis, la réponse est aucune raison. Et je pourrais continuer comme ça pendant des heures, j'ai plein d'autres exemples. La liste est sans fin. Vous y avez probablement jamais songé. Mais tous les grands films, sans exception, contiennent une part importante de aucune raison. Et vous savez pourquoi? Parce que la vie elle-même est une succession de aucune raison. Pourquoi ne voit-on pas l'air tout autour de nous? Aucune raison. Pourquoi est-on toujours en train de réfléchir? Aucune raison. Pourquoi certaines personnes aiment les saucisses alors que d'autres personnes détestent les saucisses? Aucune putain de raison.
Hé, hey, te fatigue pas à expliquer toutes ces conneries, allez viens.
Une seconde, laisse-moi terminer. Cher spectateur, le film que vous vous apprêtez à regarder est un hommage ou aucune raison. Cette figure de style d'une puissance fantastique.
Le monologue du Chéri Tchad est extrait du film Rubber, film de Quentin Dupieux sorti en 2010. Et vous venez d'entendre la version française pour d'obscures raisons qui n'ont aucune raison de radiophonique. Et maintenant, Blue Monday dans sa version originale de 1933. Thank you. Orchestra obsolète, reprise de Blue Monday avec des instruments qu'avec des instruments qui existaient en 1933.
C'est enivrant.
Vous écoutez FMR 89.1. Enflammé.
Ah, c'est à moi alors. Lors d'une précédente émission, nous avons déjà reçu notre invité d'aujourd'hui. Malheureusement, suite à des problèmes techniques, nous n'avions pu terminer notre interview dans de bonnes conditions. C'est pourquoi nous recevons à nouveau Laurent Chemla, cofondateur de Gandhi, membre du comité stratégique de la Quadrature du Net, voleur qui a fait sa confession, pâtissier dans son garage réputé.
CPU, carré et petit utile.
Bonjour Laurent.
Salut.
C'est pas ta groupie.
Excusez-moi, je suis très intimidée et du coup, mon côté groupie ressort. Alors, tu es un administrateur système réputé, mais d'où viennent tes talents pour la pâtisserie?
En très grande majorité de ce que je peux trouver sur Internet, de vidéos, de recettes et autres. Mais je suis quand même tombé dedans quand j'étais tout petit parce que mon père, qui cuisinait beaucoup, n'aimait pas du tout la pâtisserie. Et donc, vers mes 10 ans, m'avait offert un bouquin de pâtisserie pour les enfants en me disant « Voilà, maintenant, c'est toi qui fais les gâteaux et les desserts. »
C'est astucieux.
C'est une façon de faire, oui.
Mais c'est étonnant, quoi, la pâtisserie. Enfin, du coup... Oui. Allons continuer, excusez-moi. Alors, dans la dernière interview, nous avons parlé de messagerie privée. Mais qu'est-ce qui est plus dur que de rendre utilisables des communications chiffrées? Monter une mayonnaise ou cuire un caramel?
Alors, l'un comme l'autre sont relativement très faciles par rapport à convaincre des gens qui n'en veulent pas, enfin qui n'en comprennent pas l'intérêt d'utiliser du chiffrement partout. Mais c'est quand même quelque chose de... Il m'est arrivé une fois, je crois, dans toute ma longue carrière culinaire, de rater une mayonnaise.
Ah. Et vous savez pourquoi?
Alors non, et en plus c'était très gênant parce qu'on était en Tunisie avec mon oncle qui, lui, était aussi un cuisinier familial extrêmement réputé. Et que ni lui ni moi n'avons réussi, alors que c'était absolument inimaginable, hein, devant toute la famille. Et voilà, et je ne sais pas ce qui s'est passé, on n'était pas dans notre cuisine, on n'avait pas notre huile habituelle, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il nous a fallu une heure pour réussir la mayonnaise avec le dernier œuf du paquet de vin, quoi. Et c'était quelque chose d'assez surréaliste. Et pareil pour les caramels, c'est quand même le truc un peu ratable, à la limite on peut les cramer, mais c'est à peu près tout ce qui peut se passer avec un caramel, quoi. Ça n'est jamais que du sucre chaud.
Il y a différents stades de caramel, non?
Oui, enfin... bien sûr, oui, mais ça dépend de ce qu'on veut faire. Mais de là, rater un caramel, c'est quand même difficile. Quoi.
Alors, j'ai vu que vous faisiez des macarons. Alors, oui. Pour réussir les macarons, est-ce que c'est surtout de la pratique ou de l'équipement?
C'est surtout de la chance, je crois.
Ah bon?
Mais... comme souvent quand je fais de la pâtisserie, c'est venu de la demande de gens autour de moi. Il faut savoir un truc, j'aime beaucoup la pâtisserie. Je fais de la cuisine et de la pâtisserie, je fais une vraie distinction entre les deux, ça n'a rien à voir, y compris en termes de pratique habituelle. C'est-à-dire en cuisine, on peut être très créatif, on invente plein de choses tout le temps. En pâtisserie, on respecte assez largement les recettes et les techniques. Et donc c'est très différent dans la tête et dans ce qu'on peut penser autour. Et il y a quand même un truc avec la pâtisserie, c'est que je déteste les trucs sucrés. Je ne mange rien de sucré, jamais. Du coup, forcément, pour moi, la pâtisserie reste un truc assez miraculeux, au sens où ça marche, mais je ne peux pas le goûter. Et forcément, ça vient tout le temps de la demande de quelqu'un autour de moi. Donc les macarons, typiquement, c'est venu d'une table ouverte du samedi soir, où quelqu'un m'a dit « Ouais, t'as fait des meringues, mais je suis sûr que t'arriverais pas à faire des macarons, parce que déjà, moi, je rate les meringues et ça m'énerve, alors les macarons, c'est beaucoup plus dur. » Du coup, forcément, la semaine suivante, j'ai voulu faire des macarons, voilà. Et je les ai réussis.
Et c'était la première fois ?
Eh oui.
À quoi ? Non.
Mais si. Mais c'est du bol, hein. C'est pour ça que je parle de chance.
Ah oui, c'est sûr. J'étais même admirative de la façon de dresser, comment vous avez dressé le macaron.
Ah non, mais depuis, j'en fais tellement que... Bon, je sais pas, c'est à la mode, les macarons, tout le monde aime ça, et donc j'arrête pas d'en faire parce que tout le monde m'en demande. Je sais pas, la semaine dernière, j'ai ramené, je crois, 250 macarons à Paris, j'avais même pas quitté la gare de Lyon, j'en avais déjà 150 de moins dans mon sac, parce que ma sœur était venue m'attendre en tête de quai. Bon, donc voilà, donc, non, non, les macarons, c'est devenu presque... Non, ça m'amuse beaucoup moins maintenant, c'est devenu presque un travail, quoi, c'est pas drôle. Mais... Bon, c'est pour ça que du coup, j'essaye de pas d'inventer des nouvelles recettes parce que la technique est un peu tout le temps la même et que les parfums, j'ai arrêté d'en inventer parce que tout le monde me demande tout le temps les mêmes.
Ah, c'est-à-dire ?
Bah, citron d'abord, caramel au beurre salé ensuite, c'est les deux têtes d'affiche tout le temps. Tout le temps. J'ai beau rajouter des fruits, des framboises, du cassis, du chocolat, des machins autour, les gens les mangent parce que c'est bon, mais ils préfèrent le caramel au beurre salé et le citron, c'est comme ça.
Ah, c'est étonnant.
Non, le citron, de ce qu'on m'a dit, c'est un goût de tarte au citron et le caramel au beurre salé, c'est... Voilà.
Il faut absolument qu'on goûte les macarons, Xavier. Enfin,
Donc voilà, du coup, je m'amuse effectivement avec les présentations. J'essaie de trouver d'autres centres d'intérêt que le macaron seulement, parce que le macaron lui-même, maintenant, il m'amuse beaucoup moins, forcément.
Et les macarons salés, ça vous parle?
Alors, j'ai testé des trucs, j'ai fait des macarons, même au foie gras, des choses comme ça. Ça marche, hein, c'est pas mauvais, mais... Ça fonctionne pas si bien que ça, je trouve.
Ah, parce que c'est peut-être trop sucré
Même pas à mon goût, hein, quand je regarde. Ce qui m'intéresse dans la bouffe, c'est pas tant manger, hein, c'est regarder les gens manger, les surprendre, leur apporter quelque chose, quoi. C'est le côté rigolo, c'est le partage là-dedans. Donc, c'est plus en regardant les gens manger des macarons salés que je m'aperçois que ça fonctionne pas si bien. C'est pas un super kiff. Une boîte de macarons sucrés, elle part en 10 minutes. Une boîte de macarons salés, elle va durer tout le repas. Bon.
Ça fait durer le plaisir.
Ouais, non, ça marche pas. Il y a plein de plats sucrés salés qui fonctionnent, mais pas le macaron.
Pourtant, les macarons foie gras, à Toulouse, ça marche. Enfin, ça fait partie de la Sainte Trinité. Avec le banoffee, le morito et le foie gras. Oui, ça veut dire que tu... est-ce que tu as un four spécial? L'as-tu construit toi-même en bon luxien?
Alors, non, mais j'ai ramé avant d'en trouver un qui soit à peu près comme je voulais, c'est-à-dire dont la température respecte ce que je lui demande et qui soit à peu près uniforme. Sinon, on a les trois quarts des macarons qui sont explosés. Et donc, à Nîmes, j'ai un four neuf, un vieux four neuf qui a toujours bien fonctionné. Et quand j'ai voulu acheter le même pour l'appart à Paris, je me suis aperçu que le neuf avait été depuis racheté par je ne sais quelle autre marque et que la qualité n'était plus la même. Et j'ai ramé jusqu'à trouver un truc allemand qui s'appelle Cooper Busch et qui a à peu près les mêmes qualités. Hein. Donc, voilà. Mais non, c'est des fours du commerce, mais c'est pas le four que tout le monde s'achète parce que voilà, je voulais qu'il respecte un petit peu les choses que je mets dedans.
C'est-à-dire avec la température précise.
Ouais, là, je sais pas, j'ai fait cuire un jambon, le jambon, il doit cuire à 80 degrés.
Ah oui, 80, c'est très précis, ça.
Et oui, c'est très précis, donc même en mettant les sondes et tout ce qu'on veut dedans, si ton four se met à varier de température toutes les 5 minutes, tu resteras jamais à 80 pendant les 8 heures nécessaires à la cuisson du jambon. Et je ne vais pas passer mes 8 heures à regarder la température du four non plus. Donc,
D'accord, donc tu as en fait testé, enfin, tu connais la cuisson lente de la viande alors du coup.
Alors le jambon, ouais, le jambon ça se cuit comme ça, enfin, le jambon au torchon il se cuit comme ça, mais la cuisson lente, oui, c'est un vieux... La première fois que je l'ai utilisé, ça devait être pour des épaules d'agneau, des trucs comme ça, ça fait longtemps.
Tu as récemment réussi plusieurs formules d'éclair au chocolat, mais il paraît que tu n'aimes pas ça. Pourquoi persévérer?
Je n'aime pas quoi? Faire les éclairs?
Les éclairs au chocolat.
Mais c'est pas, j'aime pas les trucs sucrés en général. Donc
ça, c'est
pas...
étonnant ça.
Mais non, ben, c'est pas, il y a des gens qui ont le bec sucré, moi j'ai le bec salé, je suis pas...
Les éclairs salés alors du coup?
Ah, j'ai jamais testé, mais ceci dit, les éclairs tout le monde aime ça, donc là j'en fais, c'est pour faire plaisir. Je balance une photo et d'un seul coup, il y a tous les potes qui se pointent. C'est bien, oui. J'aime bien ça.
T'as script, tu m'envoies les photos. En privé.
Ah, mais après, il faut venir à Nîmes, ça fait loin. Hein.
Ah, mais c'est à côté, Nîmes.
quand même, une petite trotte depuis Toulouse, c'est pas non plus tout à côté. Quoique maintenant, on est dans la même région.
Bah oui, maintenant, bah, tout à fait, on est voisins pratiquement.
Ouais.
T'es-tu déjà essayé à la soudure à plat de composants électroniques au four, genre carte mère de MacBook Pro 2011? C'est très pointu hein, comme question.
Ouais, ouais, mais en fait, non. J'ai ma propre technique pour réparer les machines qui fonctionnent pas bien. Je les menace et de les taper, et si elles continuent à ne pas bien fonctionner, je les tape jusqu'à ce qu'elles fonctionnent. Ou qu'elles soient vraiment cassées, auquel cas je les jette.
Le geek a-t-il des goûts plus variés que les autres?
Je crois pas que ce soit une question de goût, mais de curiosité surtout. C'est, à partir du moment où tu es un hacker, où tu t'amuses à bricoler les objets, à les réparer depuis tout petit, à démonter les réveils quand tu étais gamin, et tu restes curieux, y compris dans la cuisine, qui est un truc tellement vaste que tu as tout le temps des choses à inventer, à bricoler, et voilà. Là, j'ai fait un jambon, c'est pas pour plaisir d'avoir du jambon fait maison. Il est pas mal, je suis très fier de mon jambon, mais...
Je vous envie.
Comment ?
J'adore le jambon.
Ouais, mais non, mais là, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est pas tellement d'avoir mon jambon, c'est de savoir comment on le fait.
Alors, comment on le fait ?
Oh, mais on s'en fiche. C'est le principe de savoir, une fois que j'ai réussi à faire un truc et à le reproduire deux, trois fois, après, je peux tout à fait aller au marché acheter du jambon. Mais au moins, je sais comment ça fonctionne. Tu comprends ? C'est la curiosité qui fait le truc. C'est comprendre comment ça marche. Le jambon, pendant des années, je l'ai acheté sous plastique comme tout le monde. Mmh. Et à un moment, je me dis, mais attends, comment ça marche? Comment on fait ce truc-là? Je veux comprendre, je veux savoir le faire. Donc après, comment on le fait? On achète une cuisse de porc,
oui.
Et on la découpe pour retirer les os. On fait des gros blocs de chair avec la couenne autour, en retirant ou non le gras, ça dépend de ce qu'on veut obtenir. Mmh. Et chacun de ces blocs-là va être mis pendant un certain temps dans la saumure, une saumure avec quelques épices quand même, mais une saumure. Donc, là, selon les recettes, j'ai vu entre 5 jours pour un jambon de 4 kilos, et une autre recette me dit une semaine plus un jour par kilo. Mmh. Donc là, typiquement, le dernier, je l'ai laissé 8 jours bon, pour 4 kilos, donc. Et une fois que tu le sors de la saumure et que tu l'as laissé une journée à dessaler un peu dans de l'eau que tu changes, là tu vas le cuire, je te dis, en cuisson lente, donc à 80 degrés dans un torchon, dans un bouillon de légumes.
Ah d'accord.
Voilà.
Au four ?
Au four, dans une cocotte, en tout cas dans un truc qui te permet de respecter les 80 degrés pendant 8 heures.
Ah oui.
Moi oui, effectivement, je l'ai mis au four dans une grosse cocotte. Mais on doit pouvoir le mettre sur un feu très faible si on fait attention, parce que c'est voilà, faut pas. Le principe, c'est toujours, c'est le même principe que les cuissons, c'est ne pas évaporer et que la graisse ne fonde pas, c'est le principe. Si la graisse de ton jambon disparaît, ça va plus ressembler tellement à du jambon là, forcément.
Et du coup, il est bon ce jambon?
Écoute, il est pas mal, mais je commence à avoir ma dose là. Donc je vais sans doute pas manger de sandwich au jambon ce soir, parce que là j'en ai trop eu.
Et c'est pas possible de le partager?
Mais écoute, je l'ai sorti du four, c'était quoi, lundi je crois? Donc un jambon de 4 kilos qui a beaucoup perdu à la cuisson mais qui devait encore faire 3 bons kilos, il en reste 1 kilo 2 à peu près là. Et c'est pas moi qui ai tout mangé. Mais les potes passent et repartent avec du jambon. Voilà.
Ça, c'est magnifique.
C'est tout le temps comme ça.
Je vais me mettre au jambon, maison. Que penses-tu de l'imprimante 3D pâtissière?
Pourquoi pas, ça pourrait être rigolo. J'attends quand même. Le principe d'imprimer sa bouffe, bon, c'est quelque chose qu'on peut imaginer dans un futur assez proche quand même. D'abord, ça existe plus ou moins déjà maintenant, il y a quelques exemples. Mais quand on commence à voir l'impression moléculaire au niveau moléculaire, on se dit que là, on va carrément pouvoir inventer des molécules de bouffe, quoi. Inventer des goûts carrément, enfin pas juste reproduire avec une imprimante 3D des choses qu'on sait déjà faire autrement, mais inventer d'autres choses, d'autres produits, d'autres goûts, d'autres saveurs. Là, on rentre dans un tout autre... Alors là, pour le coup, pour quelqu'un de curieux, c'est encore plus vaste que la cuisine déjà existante. Ça devient passionnant, le truc. On va voir, je sais pas, mais je pense que c'est pour assez bientôt, ça.
Oui. Oui, j'ai vu quelques exemples aussi. Pour l'instant, c'est vraiment un stade assez...
Ouais, mais quand ça existera, au lieu de vous balancer des photos de macarons, je vous imprime mes macarons directement chez vous. Je vous envoie le fichier d'impression du macaron.
Ah, ça c'est génial.
Mais ouais, ça peut être... On va enfin pouvoir s'envoyer de la bouffe par Internet. Enfin, moi, je trouve ça génial.
Ah, oui, mais ça manque de convivialité, du coup. Enfin, je veux dire...
Ouais, bah, t'es cuisinaire, tu sais quand même que le côté convivial du truc, c'est surtout entre les convives que ça se passe, pas tellement avec le cuistot. Le cuistot, il est tout le temps dans sa cuisine, et quand il en sort, il est saturé d'odeurs, de bouffe, de trucs qu'il a goûté, il peut même plus manger.
Oui, ça c'est vrai. Ça.
Donc le côté convivial pour le cuistot, c'est toujours un peu limité. C'est plus le plaisir de voir les autres autour de la table, c'est bien s'amuser bien, et bien bouffer que de partager avec eux, c'est plus compliqué quand même.
Est-ce que les geeks cuisiniers ont leurs propres recettes, jargon et blagues?
Est-ce qu'ils ont leurs propres recettes? J'ai pas entendu la fin.
Jargon et blagues. Est-ce que les geeks cuisiniers ont leurs propres recettes? Enfin...
Encore une fois, en cuisine, je pense pas qu'il y ait moyen autrement de cuisiner autrement qu'en ayant ses propres recettes. Ça me...
Les blagues, oui. Surtout. Enfin...
Je vois pas le rapport avec les blagues.
Bon.
Non, mais je pige pas la question, mais c'est pas grave.
Xavier, tu voulais dire quoi? Ah bon, bah ok.
C'est pas grave, passe à la suivante. Elle est nulle, non mais des fois, il écrit des questions débiles, c'est pas grave.
En fait, il voulait savoir si les geeks cuisiniers avaient vraiment des blagues entre eux. Enfin, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, la prochaine question à une relation. Bon, alors quel est ta prochaine ton prochain projet de recette? Est-ce qu'elle sera postée sur GitHub?
Je poste pas mes recettes sur GitHub parce que GitHub c'est un truc pour les jeunes et j'y comprends pas grand chose.
Ah, moi non plus, hein, j'y comprends pas grand chose.
Voilà. Non, mais j'arrive à m'en servir quand je suis obligé, mais c'est vraiment pas mon truc. Non, quand on me demande une recette, je la balance sur Pastebin en général. Parce que voilà, même mes recettes à moi, je prends des notes de temps en temps. Et c'est des fichiers textes, tous séparés les uns des autres, pas du tout classés. Quand je veux retrouver une vieille recette, je sais pas, la recette de ma blanquette habituelle, par exemple, j'ouvre le fichier blanquette et je retrouve mes notes dedans. Comme mon père faisait, tu sais, des petits bouts de papier qui traînaient dans les bouquins. Là, c'est la même chose, c'est des petits bouts de fichiers qui traînent dans mon répertoire. Voilà. Ah. Donc, je pense pas que je sois très organisé. Après, mon prochain projet, qu'est-ce que j'ai comme projet, là? Je vais bientôt recevoir des gens très importants chez moi. Donc je vais recevoir Benjamin Bayard et Fabien Sirgent.
On les connaît.
Eh ben oui, ça me surprend pas. Et donc là, je me prépare à leur arrivée avec... J'ai ouvert tout un tas d'onglets avec des idées, de choses et de machins. Je sais par exemple que Fabien n'a pas mangé de tielle sétoise depuis très longtemps. C'est quelque chose que je sais très bien faire, donc je vais forcément lui faire des tielles.
Mais on veut des tielles, nous aussi.
Mais là, en plus, c'est pas beaucoup de boulot, parce que l'an dernier, j'ai fait des conserves de sauce.
Donc, mais il faut cuisiner... C'était quoi? C'est l'encornu, le poulpe?
Oui, le poulpe, ouais. Mais ça, la sauce, je l'ai faite l'an dernier. J'ai fait des conserves qui sont déjà là, quoi. Donc j'ai pas beaucoup de travail pour lui faire des tielles. Par contre, je l'ai vu parler de petits pâtés de pézenasse, je crois, sur Twitter. Du coup, j'ai regardé ça, ça a l'air assez marrant, ça.
Mais c'est quoi cette chose?
Ça ressemble au petit pâté nîmois, mais c'est de pézenasse.
Mais c'est quoi le petit pâté nîmois?
C'est une espèce de chose qu'ils ont inventée pour les touristes. Ah. Ce sont des petits pâtés en croûte. Non, mais c'est juste...
D'accord.
Les plats typiques nîmois sont assez limités. Hein. Oui. On a
la brandade.
Voilà. Et le gin.
Oui, c'est vrai.
Et c'est à peu près tout.
Et les fraises aussi, peut-être ?
Les fraises Tagada, ouais.
Ah.
Et oui, c'est Nîmois. Enfin, c'est tout proche de Nîmes, l'usine Haribo.
C'est fou.
Mais c'est un produit local, absolument.
Donc les vraies fraises, enfin, les fraises fruits et les fraises Tagada. Ok.
Ah,
c'est
bah,
un
autre. Les fraises, il y en a partout en France, des vraies fraises. Mais des Tagada, c'est Nîmois. Donc voilà, je recherche, je fouille Internet pour cette recette des pâtés de pézenasse qui, eux, pour le coup, d'après ce que j'ai pu lire, existent depuis 3 siècles. Donc là, c'est des vrais plats régionaux, pas des trucs comme les pâtés nîmois qui ont une vingtaine d'années, même pas.
Oui, c'est comme le magret chez nous, en fait. Hein.
Voilà, ouais.
Qui existe depuis les années 70, enfin à la cuisson plutôt. Oui.
Donc, je sais pas, je prévois ce genre de choses, je pense leur faire un poulet au citron marocain.
Ah, il y a bataille parce que Dascritch, c'est aussi la spécialité de Dascritch. Enfin, le poulet au citron, la tagine.
Ah, c'est un tagine. Ouais. Mais c'est pas le classique tagine citron-olive, là. On est plus dans un truc qui se bouffe avec les doigts dans le machin marocain. Je l'ai essayé une fois à Paris, ça a été un très gros succès. J'ai envie de le refaire, ça fait très longtemps. Et surtout, j'en avais pas eu, moi, parce que voilà, ça avait tellement été un tel succès qu'il n'y a pas eu de reste, et comme d'habitude, j'avais pas bouffé avec eux, et je n'avais pas goûté.
Et comme on dit, hein, les cuisiniers. Hein.
Voilà. Voilà, et aujourd'hui, j'ai testé une nouvelle recette sur commande d'un pote, qui était la brioche de je sais plus quoi, sans jeunesse, un truc comme ça.
Ah, elle a quoi comme particularité, cette brioche ?
Saint-Génix, pardon. Saint-Génix. Elle est fourrée avec des pralines roses que j'ai fait ce matin
au
réveil.
D'accord, oui, j'ai vu cette photo de praline ce matin. Oui.
Et du coup, j'ai fait la brioche cet après-midi et le pote est déjà passé la prendre. Voilà.
Et elle a vite disparu, je crois. C'est ça. Enfin, on l'imagine.
Ah ben, il est reparti avec. Hein. La brioche et du jambon. Et voilà. Et...
oui.
Et le reste de praline, parce que j'en avais fait beaucoup.
En fait, ils viennent prendre commande.
Non, c'est mais c'est des potes qui passent de temps en temps, on se fait des bouffes, machin. Et la dernière bouffe, ils me disaient, tiens, ça c'est un truc que j'ai pas mangé depuis tout petit, j'ai adoré ça, du coup j'en ai fait une. Voilà. Je le note dans ma tête, et puis quand ça tombe, bah, tiens, je dis, en fait, j'ai fait ta brioche, tu peux passer la prendre. Ah, cool, voilà.
Allez-y. J'ai envie de formuler une demande là. J'ai très envie d'une brioche. Ah, quoi ?
Non, stop, stop.
Quoi, Xavier ? Ah, si, une petite brioche bien moelleuse à la mi-filante.
Ouais. Oh, ça, c'est facile, c'est de la brioche.
Mais oui, mais il y a des brioches et brioches. Je sais pas, je sais pas, peut-être que...
Oui, j'ai... oui, non, mais il y a des brioches plus sèches que d'autres, c'est vrai. Oui.
Très moelleuse, humide, enfin... avec des grains de sucre dessus.
On vient de dépasser le point Macha Béranger sur France Inter pour Géraldine sur Skyrock. On peut enchaîner sur la question, je vous prie.
Ah, tu... Quelle question ? Est-ce que tu essayes d'autres cuisines Enfin, est-ce que tu essayes d'autres cuisines occidentales, enfin, autres que la cuisine occidentale ?
Alors oui, souvent. Déjà parce que ma cuisine d'origine à moi, c'est la cuisine tunisienne juive. Enfin, en tout cas, c'est celle que faisait mon père beaucoup. Donc forcément, j'ai déjà ça dans mes différents talents culinaires. C'est tout ce qui... Là, je reviens, il y a peu de temps, j'étais parti quelques jours en Tunisie avec mes sœurs. Mmh. Et il se trouve que j'avais commandé... En France, on ne trouve pas de boyau cachère. Or, bon, ma famille n'est pas du tout pratiquante, sauf un. On en a un qui est pratiquant dans la famille. Et du coup, quand je vais à Tunis, j'essaie de commander des boyaux cachers pour pouvoir faire des merguez quand je reviens en France. Parce que les merguez tunisiens ne sont pas les mêmes épices que les merguez français.
D'accord.
Et là, je n'ai pas pu parce que le boucher cachère de Tunis n'a pas compris ma commande. Et quand je suis parti, il n'avait pas encore fini de découper son mouton. Mais mes sœurs partant un jour après moi m'ont ramené les boyaux. Donc j'ai fait des
merguez.
Des merguez tunisois, il n'y a pas très longtemps. Mais sinon, j'ai des phases thaï, j'ai des phases... J'aime beaucoup la bouffe thaï, par exemple. C'est un truc que je fais très souvent. J'ai des phases comme ça. Donc, je je découvre hein, de temps en temps. La bouffe thaï, c'est venu d'un voyage de ma nièce en Thaïlande. Elle est revenue, elle a commencé à faire... C'est une très bonne cuisinière aussi, elle a fait des plats thaï. Ça m'a dit, j'ai dit ça, il faut que j'apprenne, c'est trop génial, c'est absolument prodigieux comme cuisine. Et depuis, j'en fais souvent. Voilà, je reste très curieux. Et évidemment, tous les plats français... Par exemple, là, je sais pas, je ne connais que ça, le bœuf.
Le bœuf... le bœuf à la ficelle, la...
Non.
Le bœuf loquac.
Non, oui, mais là, on repart dans la
biotique. On repart dans le ficelle.
Le bourguignon, voilà.
Ah.
Il fallait que je repasse par le vin pour retrouver le nom. Faire un bourguignon, c'est quelque chose que je ne savais pas faire. Et un jour, Benjamin Bayard, dont on parlait il y a 5 minutes, est arrivé dans ma petite cuisine de l'époque à Paris en me disant, je vais t'apprendre le bourguignon de ma grand-mère. Et il est venu avec tous les produits pour, la cocotte pour, l'écumoire de sa grand-mère avec laquelle il avait appris à faire le bourguignon, et il m'a montré, et il m'a donné la recette du bourguignon de sa grand-mère. Donc tu vois, comme ça, il y a plein de choses qui passent, y compris par la cuisine. Ça, je te parle de ça, c'était il y a 20 ans, mais il n'empêche que de temps en temps, je refais un bourguignon pour Benjamin, parce que voilà, c'est notre plat commun, quoi. C'est le truc qui m'a appris.
Ah, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est beau le partage.
Et là, la semaine dernière, il y avait l'Assemblée Générale de la Quadrature à Paris. Et comme à Tunis, une amie de mes sœurs, dont c'est la passion, qui a monté une association pour ça, fait le tour de toutes les vieilles cuisinières de Tunisie, de chaque région, pour essayer de retrouver des recettes qui sinon se perdent parce que la cuisine tunisienne devient un peu standardisée. Et donc elle essaie de retrouver tout ça et elle est venue nous donner un cours de couscous traditionnel, le truc de base.
Poisson ?
Non, traditionnel, c'est-à-dire le plus simple possible, celui qu'on fait vraiment, que font les grand-mères pour au quotidien quasiment. Mm-hmm. Donc là, elle nous a fait deux couscous, un couscous au poisson.
Oui, le fameux couscous au poisson.
Et un couscous au poulpe.
Ah, mais ça, on ne connaît pas, c'est rare ça.
Voilà, tu vois. Mm-hmm. Mais c'est pas tant là-dessus que je me suis basé. Par contre, je leur ai fait un couscous à la quadrature pour l'Assemblée Générale à chaque fois que je... Quand c'est une assemblée générale, c'est moi qui fais la bouffe. Et donc j'ai fait un couscous en me basant sur les trucs qu'elle m'avait montrés à Tunis. Et c'est génial.
Oh là là.
Et ils m'ont dit,
on a envie de venir la prochaine fois.
Ils ont été ravis, hein. Ça leur a beaucoup plu, là, visiblement, ça les a marqués. Ça.
Merci Laurent, merci pour cet échange. On est toujours intimidés. Et on sera ravis de vous recevoir à Toulouse. Pour un couscous, tiens. Un couscous au poisson.
Pourquoi pas. Ou alors passer à Nîmes, hein. C'est plus facile pour moi. Moi, je ne me déplace pas beaucoup, donc vous venez.
Ah, allez, d'accord. Voilà. Avec une brioche.
D'accord, avec une brioche et un couscous au poisson. Ou alors une brioche au poisson, peut-être.
Ah oui, pourquoi pas. Allez.
Pour le 1er avril, ça va peut le faire.
Tout à fait, merci beaucoup.
Merci à vous. We'll be right back.
Themselves, Music 5, bande originale du jeu Super Hexagon. C'est en fait c'est la musique de l'ultime niveau, celui qu'on n'arrive jamais à atteindre. Vous écoutez FMR, c'est CPU.
Attention, certains propos exprimés lors de cette chronique ne reflètent pas les pensées de l'auteur, des producteurs du programme CPU ou de Radio FMR, mais ils sont présents uniquement pour illustrer le sujet.
Depuis que l'homme, pardon, excusez-moi, je me trompe de ligne, foutre Dieu. Bon, attends, je reprends. Depuis que l'homme a été capable de croire qu'il peut créer un être à son image, il a fallu confronter ces golems pour voir si l'anima ainsi créé peut rivaliser avec l'humain. Et donc, le défier au petit jeu des humains. Après s'être pris de belles toulées aux dames et aux échecs, l'un des derniers jeux classiques sur lequel l'homme avait encore un ascendant vient d'être gagné par la machine. Le jeu de Go a donc été récemment remporté par un programme écrit par les équipes de Google face aux champions du monde sud-coréen. Un jeu oriental considéré comme bien plus subtil que les échecs occidentaux, où il est question d'occupation de territoire, de prise de pierres, mais surtout de reddition dans les temps. Un peu comme l'Ukraine, quoi. Si j'en crois le film War Games, il nous reste le poker et la guerre thermonucléaire totale. Et même pas sûr pour Tinder, car Microsoft a aussi une expérience solide avec les assistants logiciels sur un domaine très spécifique. Chao Heise, l'un des moteurs de dialogue ou chatbot, a acquis une forte réputation dans l'assistance de drague. Oui, en Chine, Microsoft a un service d'assistance intelligente pour aider les hommes et les femmes célibataires à faire chavirer les cœurs, qu'après tout on peut surnommer Hitch as a Services. Fort de cette expérience, les équipes de Microsoft ont construit Tay, une nouvelle intelligence artificielle plus généraliste qu'ils ont branchée sur Snapchat et Twitter. Afin d'avoir de la discussion, ils ont donné à Tay une personnalité proche de la plupart des collégiennes de nos jours. De là, l'intelligence artificielle apprendra en fonction des dialogues qu'elle aura avec de vrais humains. Mais en 24 heures de présence sur le net, cette adolescente numérique est passée de fan de One Direction en raciste convaincu capable d'hurler au monde qu'Hitler avait raison et menaçant de voter Donald Trump pour se débarrasser de tous les latinos. Plantage. Ce que Microsoft n'avait pas prévu, c'est que les trolleurs professionnels qui hantent les forums les plus sombres de 4chan allaient lui faire une éducation à leur façon. Après tout, si on explique à un enfant qu'il est normal que quelqu'un qui a un syndrome de Tourette s'exprime merde, caca, merde ainsi, le gamin va l'imiter chier, 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 chier sans comprendre le caca subtilité entre maladie et prout syndrome. Et les affreux de 4chan ont réussi à démontrer qu'on peut passer de l'intelligence d'une téléspectatrice de Cyril Hanouna à largement encore plus conne. Et ben oui, c'est possible. D'où cette conne remarque importante, l'évolution de l'intelligence est relative et peut aller à nettement pire, foutre Dieu. Comme l'a si bien écrit Motherboard France, Tay, en pleine crise de rébellion adolescente, est envoyé dans sa chambre privée de portable, de sortie et de Wi-Fi. Ses parents, dépités, effacent les tags rageurs de cette salope adolescente mal léchée, car Microsoft avait mis bien en vue leur logo sur l'avatar de Tay. Laisser de tels propos politiquement non corrects pouvait être interprété comme une acceptation de connard Microsoft. D'où le karcher des crassages ordures dégueulasses merde pute chier. En 24 heures, cette sale pute bien née est passée à une enflure bien pensante qui ira génocider en chantant. Pute, 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 satilla salope motive par là même les thèses qui veulent retirer le droit de vote des esprits simples. Voire même leur élimination de la société, puisque Microsoft a préféré débrancher cette persona. Foutre, foutre, pute, bite, terrifiant de voir comment, en une chronique sur le transhumanisme, on arrive à justifier l'eugénisme. Ouais. Je me foutrais des baffes.
J'ai tout mangé le chocolat. J'ai tout fumé les Kraven. Ah. Et comme t'étais toujours pas là, j'ai tout vidé le rhum coca. J'ai tout démonté tes tableaux. J'ai tout que tu cachais dans ton bureau. Fallait pas me quitter, tu vois. Il est beau le résultat. Je fais rien que des bêtises, des bêtises. j'ai tout bien étalé la glu. Comme t'étais toujours pas revenu, j'ai tout haché menu menu. J'ai tout brûlé le beau tapis, j'ai tout scié les pieds du lit, tout décousu tes beaux habits et mis le feu à la penderie. Fallait pas me quitter.
Sabine Paturel, les bêtises, on revient dans les années 80, et à une époque, il y avait un jeune peintre qui a eu un succès fou, puisqu'il était remarqué par Andy Warhol, et il est passé de quasi-clochard à instantanément milliardaire. Jean-Michel Basquiat avait eu une relation extrêmement toxique avec une fille très très belle, mais extrêmement instable, comme justement Sabine Paturel, et qui s'amusait à lui jeter les tableaux de chez lui, à la plaquer, et lui, ben, il faisait le tour des bars de New York pour retrouver la boîte de nuit où elle était. Il se postait devant l'entrée, attendait qu'il passe devant et invariablement, ils allaient après faire quick-quick sur un canapé. Non, mais ça n'a aucun rapport, pardon. Vous êtes sur CPU, c'est Radio Éphémère, et ça n'a absolument rien à voir. Comme la plupart des corps de métier, nous, les développeurs informaticiens, ouais, parce que j'ai oublié de préciser, peut-être que c'était mon vrai boulot. Non, je suis pas animateur radio, en fait. Animateur radio, si c'était mon boulot, ben, j'aurais eu un bulletin de salaire de radio éphémère et tout ça. Non, c'était une autre époque. Pardon. 3-4, on coupera au montage. Comme la plupart des corps de métier, nous, les développeurs informaticiens, avons un humour assez particulier. Et nous aimons le faire partager aux collègues, confrères, conduits dessus, concurrents. Nous exerçons un métier technique à compétences très fortes mais périssables. Notre activité fait que nous sommes continuellement sur Internet, puisque c'est notre matière première de travail, et que nous devons continuellement nous documenter, puisque technologiquement, le secteur évolue radicalement tous les deux ans. Donc il y a des fois où l'on se déride sur les sites à l'humour très référencé qui ferait passer le board slash B de 4chan.com pour une blague carambar. Après tout, même les spécialistes des laboratoires militaires ont le droit d'avoir leur humour, car comme le dit le sage, connerie, c'est la décontraction de l'intelligence. Je crois que je l'ai déjà placé cette citation. Enfin bon, qu'importe. Après une très longue étude, j'en ai établi un classement en trois groupes principaux selon l'usage attendu de la blague.
La première catégorie d'humour sectoriel est à usage antidépressif.
Cette catégorie d'humour met généralement en scène les erreurs commises dans son entreprise, entre collègues ou par des prestataires qui sont supposés avoir le savoir-faire de la profession. Bien souvent, la publication de tels « faits », et je mets des guillemets parce qu'on restera dans le doute que tous les cas rapportés soient bien réels, est à destination d'autres spécialistes de son domaine, d'où parfois l'usage d'un jargon archi-technique et dont la blague ne s'embarrasse pas d'expliquer et d'entrer dans les détails. Le meilleur exemple en est le compte Twitter Web Agency Fail. Son écriture permet de faire le dos rond devant les erreurs, des demandes incohérentes ou une gestion de projet qui n'est pas au top.
Il peut parfois aussi être une autocritique de ses propres errements, comme on peut le noter sur le Tumblr Les Joies du Code. Accessoirement, la consultation de ce genre de blague rappelle que la situation n'est pas forcément meilleure chez les concurrents. Bref, il permet de relativiser sa propre situation.
La deuxième catégorie d'humour sectoriel est à usage éducatif.
Tout professeur, tout animateur de cours, tout éducateur et tout publicitaire vous le confirmera. Il faut savoir captiver l'audience afin de lui faire retenir un message. Les méthodes les plus efficaces sont le jeu, ce qu'on appelle la gamification, et l'humour, la zygomatization. Pour une raison que je ne m'explique pas, très peu de gens sont chauds pour une partie de jeu pendant les réunions ou deadline serré, reste donc en général le bon mot. Cet humour sert l'évidence même, du moins ce qui semble totalement évident pour un professionnel et qui fait partie du sens commun, donc notamment devrait aussi être compris par son interlocuteur. Or, si nous sommes dans des métiers très techniques, il existe un nombre incommensurable de personnes qui feront comme si votre expertise était insignifiante. Soit ils tenteront de vous rabaisser, de vous dire que la technique c'est bien mignon, mais il suffit juste d'appuyer sur un bouton et que le vrai savoir, c'est le commercial qu'il a quand il vend du vent au client. Soit ils improviseront à un poste sans en avoir la moindre connaissance technique, en vous imposant des choix technologiques totalement inappropriés ou croyant qu'il suffit d'ouvrir Photoshop pour devenir webmaster. Des clients difficiles, des responsables impossibles au patron qui croit savoir. Les occasions de devoir rappeler les fondamentaux ne manquent pas. Le Tumblr Momasson, hélas aujourd'hui un petit peu passé en jachère, joue ce rôle en expliquant la relation graphiste-client par une analogie avec un maçon, en matérialisant le travail du graphiste, les matériaux et les outils. Et surtout, en rappelant au client qu'un maçon est en général bourru, bien plus musclé que lui, et que votre client ne tenterait même pas de lui parler de la même manière qu'à vous. L'explication est moins aride, et en général, le ridicule de la situation saute immédiatement aux yeux. Le fait que cela soit une blague permet de la retenir plus facilement et de la ressortir aisément lors d'une réunion, quitte à envoyer un rappel par email. Cela marche en général mieux que le très didactique mais aride les pourquoi du design. Ce genre de site arrive même à cultiver un humour amenant à un réflexe. Est-ce qu'on met en production aujourd'hui.info informera le décideur sur l'opportunité de modifier un site en production à l'instant T. Les réponses du vendredi sont invariablement négatives et à plus forte raison en cas d'échec majeur. Le génie de ce site, c'est qu'il peut parfaitement être compris par des clients et des commerciaux et donc faire comprendre l'idée d'une fenêtre favorable de déploiement et responsabilise votre interlocuteur.
La troisième catégorie d'humour sectoriel est à usage carnassier.
Oui, car l'espèce humaine dont nous faisons partie a un régime omnivore. Mais nous avons aussi un côté carnassier qui influe notre mode de pensée. Nous nous régalons de ce qui trébuche. Parce que nous avions identifié en eux des proies faciles, des proies bien juteuses, à chair tendre. Et la vue de leur sang qui jaillit nous donne hâte de planter les crocs pour se délecter de leur chair. L'échec des autres nous motive à la chasse. Oui, nous sommes des hyènes, même quand nous suivons un régime végétarien. C'est pour ça que nous esclaffons d'un rire sinistre et mauvais. À lire le compte Twitter « Comment qu'on code ?» simulant des sorties triomphales d'un bleu qui veut se la jouer, qui a tout appris sur W3 Schools, déformé par un translator quelconque. Le moindre de ces messages, rédigé dans un style illettré par un indécrottable ignare, nous fait ricaner, rien qu'à imaginer le gadin prévisible qui va suivre. Parce que le jeune fan revient à la charge, indéfiniment, heureux comme un stagiaire dans une e-web agency qui lui propose des clients d'exception à un salaire ridicule, ce qui fera tout le sel de notre facture quand il faudra reprendre le travail. Et surtout qu'il est magnifique, le con. Il s'obstine. Seulement le con, il est en chacun d'entre nous. À tout moment, nous sommes susceptibles de faire une grossière erreur de débutant. Il y a une arrière-passée un peu coupable. On s'auto-éduque à ne plus refaire cette bourde. Cet humour grinçant, quasi noir, témoigne néanmoins d'un manque flagrant de charité envers les débutants puisque personne ne propose de l'aide au malheureux persona fictif. Oui, nous avons tous envie qu'il se plante encore et encore, alors qu'il s'exprime et qu'il proclame joyeusement « There, I fixed it !» Oui, nous avons tous nos grands moments de honte au début de nos carrières respectives et heureusement, nous avons eu des personnes qui étaient venues généreusement nous aider. Parce que pour progresser...
Rire fait du bien.
L'humour fait partie de l'amélioration permanente de nos conditions de travail. Il est notre antidépresseur dans un travail où la dépression se pêchère en créativité graphique et qualité de code. Et la prochaine fois qu'un commercial vous demande de pondre un site en pixel perfect, vous saurez lui montrer comment vous faites avec Photoshop ouvert et la touche print screen, sans s'embarrasser des trucs à la mode comme le référencement naturel, l'accessibilité, le responsive web design ou l'internationalisation. Et oui, on m'a maintes fait cette fois cette sortie, j'ai vraiment répondu comme ça une fois, et le message est passé positivement. Et cela s'appelle la thérapie par le rire. Comment ça, mes conducteurs, ils font des pages et des pages. Voilà, alors je ne sais plus exactement quel était le morceau que j'ai programmé. Voilà, Nyan Cax, une parodie en fait de la musique de la bande-son Nyan Cat, orchestrée par Cax et Ren Minus pour un dessin animé de Ren Minus. Et tous les liens, puisque l'une des chroniques que vous avez entendues tout à l'heure a été écrite il y a 3 ans, elle est très riche en liens et en illustrations. Tout ceci est sur le site internet de l'émission. Attends, merde, non, mais là, je fais le générique final déjà. Bon, ok, ciao, déjà bye bye. C'était CPU, le programme carré petit utile, et vous l'entendez, la musique était un petit peu exceptionnelle. Pour cette release, l'équipe était composée de Enflammé Chief Joking Officer et Daskritch Chief Pranker Officer. La release a été shippée avec les moyens techniques de Radio Éphémère. L'intégralité du programme, des extraits et les sources sont disponibles sur le site cpu.pm. Vous pouvez commenter et partager, n'hésitez pas, c'est libre service. Prochaine release, l'OS Souverain. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h dans 15 jours. On prend une petite semaine de break, hein, vous n'allez pas nous en vouloir. Et je tiens une fois de plus à remercier toute l'équipe Solarius qui est au lit, Gaël Cérez, Myriam Schaff, Chris O'Brien et l'équipe technique de Radio FMR, dont Mika qui est en vacances. Et si vous nous écoutez sur Radio FMR Analogique présentement, il est presque midi, enfin sauf pour nous parce qu'il est 20h01, nous cédons à Monique Blanquet l'antenne pour quelque chose de totalement impromptu. Théâtre d'impro, tout ça. Oui, forcément. Ah, qu'est-ce que vous croyez ? C'est un métier d'écrire des blagues à la fin. Alors voilà, tu te plains du conducteur, comme quoi il y a beaucoup de pages, ça va, il n'y en a que 8.
Et en plus, tu les as même pas numérotés.
Plus les SMS. Si, c'est numéroté en bas, là. En bas, là. Là.
Non,
là.
C'est pas vrai.
Si, c'est marqué là. 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 CPU EX0025 est maintenant quelque chose de totalement différent. 30.03.16, 6 sur 6, copyright d'Askritch and Associates pour Radio FMR, Creative Commons.